Et avec Yael Gauz, nous recevons ce matin l'ancien secrétaire général de la CFDT. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Laurent Berger, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. Vous avez donc quitté à la tête de la CFDT, leader de la contestation contre la réforme des retraites. Et voilà qu'on vous retrouve dans une banque, puisque vous travaillez au Crédit Mutuel, où vous dirigez un institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité. Par ailleurs, vous publiez avec le sociologue Jean Viard aux éditions de l'Aube pour une société du compromis, livre dont on va parler évidemment tout de suite avec vous et avec Yael. Ça faisait depuis l'été dernier que vous n'aviez pas parlé dans les médias. Les matinales tous les jours, les médias, les micros vous ont manqué, Laurent Berger. On vous a manqué ou au contraire le sevrage a été facile?
Ah non, le sevrage a été facile, je vais être franc. Humainement, les gens ont pu me manquer, mais non, j'avais pris la décision de partir et de faire autre chose et de continuer à être utile ailleurs. C'est pour ça que je suis allé dans une entreprise, un syndicaliste, son terrain d'action principal, c'est l'entreprise. Et donc j'avais envie de retourner dans l'entreprise, je suis retourné dans le monde bancaire, et pas n'importe quelle banque, le Crédit Mutuel, qui est une entreprise mutualiste, qui est une entreprise coopérative, qui a toujours innové sur la question sociétale, sur la question environnementale. Et donc j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis de la transformation environnementale et sociétale.
Avouez que c'est pas commun quand même de passer de patron de premier syndicat de France à salarié d'une banque.
Ben vous savez, des salariés des banques, il y en a beaucoup. Rien que dans le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il y a 78 000 collaborateurs. C'est pas commun, mais ce qui est pas commun, c'est qu'on puisse se poser la question. Enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse se poser la question. Un syndicaliste, son terrain d'action, encore une fois, c'est l'entreprise. Moi, j'avais envie d'être utile. Et il se trouve que le Crédit Mutuel Alliance Fédérale était en pleine réflexion sur son plan stratégique, avait dans son plan stratégique un des axes qui était mener la révolution. La révolution environnementale et sociétale, c'est le pilier 2 du plan stratégique. Et j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui le président du groupe, qui s'appelle Daniel Ball, que je connaissais pas. Il s'est trouvé qu'il y avait une convergence de valeurs et de points de vue. Et ils m'ont confié la préfiguration d'un institut pour accompagner les métiers de la banque.
Qui va faire quoi exactement, cet institut?
Vous savez, c'est quoi?
C'est produire des rapports, faire des choses.
Les métiers bancaires aujourd'hui, c'est quoi? Les banques et l'assurance, c'est de financer et d'accompagner. Quand on veut avoir, on est dans une banque, le Crédit Mutuel en l'occurrence, qui a volonté de prendre sa part dans la société sur la transformation environnementale et sociétale, et ben il faut s'interroger sur ce qu'on doit financer, où on doit investir, dans quelle énergie, sur les co-rénovations des bâtiments, l'accompagnement du monde agricole, et puis se demander comment on accompagne nos clients. Et pour ça, cet institut, eh ben, il aura pour rôle d'avoir de l'expertise solide pour voir faire les bons choix dans les différents secteurs, pour s'appuyer sur des données qui soient fiables, notamment parce qu'il y a un objectif de baisser notre bilan carbone de moins 20% dans les 4 ans à venir, d'avoir des offres bancaires adaptées à proposer, à la fois sur le terrain environnemental et sur le terrain sociétal. Et donc, ça sera ça, le rôle de l'Institut. L'Institut, c'est l'instrument de l'ambition que porte le groupe, que portent les dirigeants du groupe, pour faire du Crédit Mutuel Alliance Fédérale la banque qui fait ses preuves sur le terrain environnemental et sociétal.
Alors, et donc la banque, oui. Et puis il y a l'écriture. Oui. Venons-en à votre livre, Pour une société du compromis, qui est le premier ouvrage d'une nouvelle collection que vous dirigez désormais aux éditions de l'Aube. Vous écrivez en introduction, compromis, le gros mot est lâché dans un pays qui se voit plus révolutionnaire que réformiste. Vous faites le portrait d'une société française malade, très angoissée, je vous cite, et assurément très fatiguée, en particulier depuis le Covid, une société à la peine pour recréer du commun. La radicalité, dites-vous, affleure partout quand elle ne se déchaîne pas ouvertement, violemment, dangereusement. À quoi est-ce que vous pensez exactement quand vous écrivez ces lignes?
Je pense à la radicalité des postures qui empêche la radicalité des choix. Et je vais reconnecter à ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je pense que ce dont on a besoin, c'est une direction. Et si on prend ce que je suis en train de faire aujourd'hui au sein du groupe Crédit Mutuel, la mission qui est, c'est, on dit, il faut que la banque prenne sa part aujourd'hui dans la transformation environnementale et sociétale. Le plan stratégique, je le rappelle, c'est mener la révolution environnementale et sociétale. Et pour ça, il faut trouver les voies de passage. Et donc, il faut des choix qui soient parfois radicaux. Il faut assumer ce qu'on peut vouloir faire. Il faut trouver les voies de passage. Ça se fait pas dans le jeu de posture. Ça se fait pas dans l'arrogance. Ça se fait pas dans la confrontation.
Vous pensez à qui
stérile.
En disant ça?
Mais je pense au débat public. Si on prend la question environnementale aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde sait qu'il faut faire cette transformation environnementale. Mais personne ne prend le chemin pour le faire parce que ça nécessite des compromis. Ça nécessite de trouver la bonne articulation entre ce qu'il faut financer, entre la façon ce qu'il faut financer pour s'adapter, pour transformer le modèle, etc. Et donc, je pense tout simplement que il y a trop de clash et pas assez d'actions concrètes. Et moi, ce que j'ai voulu faire, je vous le dis, je l'écris, mais surtout j'essaie de le mettre en œuvre, c'est de trouver les voies de passage pour qu'on construise un monde qui soit plus durable et plus solidaire.
Laurent Berger, sur l'écologie dont vous parlez dans votre livre, Giuliano D'Ampoli nous disait hier que le climat est devenu une part de la guerre identitaire, de la guerre culturelle en cours. Et comment expliquez-vous que l'écologie qui faisait auparavant l'objet d'un consensus mou, comme le dit le chercheur d'Ormagin que citait Ampoli, soit devenu aujourd'hui une ligne de fracture politique, que le Green Deal soit attaqué partout en Europe. Il y a là un nouveau clivage, et j'imagine que vous l'avez vu politiquement.
Oui, on le voit aussi dans la transformation des différents modèles, tout simplement parce que la question, cette guerre environnementale, ce combat environnemental, il n'a pas de concrétisation ou il n'en a pas suffisamment au quotidien. En même temps, quand on est dans un groupe de banque assurance, je peux vous assurer qu'on le voit bien dans les risques climatiques qui aujourd'hui ont des conséquences très concrètes sur les assurés, par exemple. Et juste pour vous donner un exemple, savoir si on va continuer à avoir une logique assurantielle mutualisée, c'est-à-dire on s'assure les uns les autres, là où on habite, n'importe là où on habite, ce qui est le choix du crédit mutuel aujourd'hui, ou alors d'avoir de pas prendre le risque d'aller dans les endroits qui vont être le plus impactés.
Vous pensez aux sinistrés du Pas-de-Calais, par exemple.
Oui, bien sûr, par exemple. Mais juste pour dire, c'est que cette question environnementale, elle manque de concrétisation concrète. Et puis surtout, on a oublié une donnée fondamentale, c'est que ça va se faire avec les gens. Et qu'il faut pour ça construire les voies de passage. Je vais prendre la question du monde agricole. On sait bien que l'agriculture aujourd'hui, il est fort émissif en CO2. On va pas faire cette transformation sans les agriculteurs. Il va falloir qu'on le fasse avec eux. Et c'est un des enjeux, par exemple, de l'Institut Mutualiste pour l'Environnement et la Solidarité, c'est d'accompagner ce monde agricole vers un modèle agricole qui soit plus durable,
mais sans nier les personnes. En ce moment
oui, il y a un backlash, mais
sur l'écologie.
Oui, parce que c'est facile. Parce que, individuellement, chacun, on n'a pas forcément envie de bouger. Et on sait bien que la transformation du modèle de développement, elle va impliquer des bougers. Alors, on aime bien trouver des coupables. Ça, c'est le truc facile. Mais
est-ce que les politiques sont à la hauteur? Quand on voit en ce moment, on refuse les éoliennes chez les uns, de la loi ZAN chez les autres, pause dans la lutte contre les pesticides.
Je pense que c'est pas à la hauteur de l'enjeu environnemental. Mais moi, si j'ai choisi aujourd'hui d'aller m'impliquer dans une entreprise, de mettre les mains dans le cambouis, je le disais encore à mon équipe hier que le boulot, c'était de mettre les mains dans le cambouis et de trouver les solutions et les offres qui vont être les plus utiles, c'est pas pour faire des commentaires politiques.
Est-ce que le compromis qui est votre thèse, est adapté à cette urgence climatique quand on voit qu'une partie de la gauche se réfère maintenant aux théories d'Andreas Malm, qui lui n'exclut pas le recours à la violence sur les biens, pas sur les personnes, pour les besoins de la cause. Ça, c'est tout sauf le compromis, non, Laurent Berger.
De toute façon, je veux dire, vous savez bien que j'ai pas changé. C'est que moi, j'ai toujours considéré qu'il faut des choix radicaux, qu'il faut savoir là où on veut aller, et ensuite trouver les voies de passage. Et je vous le dis, je le raccroche encore à ce que je fais aujourd'hui. Quand un groupe bancaire comme le Crédit Mutuel, qui est un groupe mutualiste, le mutualisme, ça, c'est
vous faites de la pub ce matin-là.
Non, mais je fais pas de la pub parce que j'explique que mettre les mains dans le cambouis, c'est contribuer à changer les choses, à faire du compromis. Quand ils décident de mener la révolution environnementale et sociétale, eh bien après, faut trouver les voies de passage, faut trouver les bonnes offres bancaires, faut faire des choix. Et on met pas assez en avant aujourd'hui ce qui se réalise. Je vais vous dire une des raisons qui m'ont fait aller au Crédit Mutuel. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'ils ont mis fin au questionnaire de santé, avant que j'arrive, au questionnaire de santé pour les prêts bancaires. C'est révolutionnaire. Ils ont décidé de mettre 15% du dividende sociétal, de leurs bénéfices, dans un dividende sociétal pour financer des projets d'investissement dans l'environnement et la solidarité, pour financer du mécénat. Et donc, je pense qu'il faut de la preuve et montrer que c'est possible d'aller vers cette transition environnementale en faisant les compromis nécessaires.
On a encore beaucoup de questions à vous poser avec Yaël, mais tout de suite, la parole aux auditeurs d'Inter. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Grenoble, on vous écoute.
Voilà, j'appelle de Grenoble. Bonjour Laurent, je continue de te tutoyer puisque je suis un adhérent de longue date de la CFDT. Je me félicite du livre que tu publies aujourd'hui sur le compromis et la négociation. Mais j'ai pas l'impression que ça a été la position de la CFDT lors de la réforme des retraites. Je pense que la CFDT a certainement gagné en militant, mais je retrouve pas vraiment la CFDT de Nicole Notat et du regretté François Chérec, qui effectivement dans un premier temps avait perdu des militants, mais la CFDT d'abord les avait regagnés par la suite. Et la CFDT avait gagné en image et en réalisme.
Merci Gilles pour cette question. Laurent Berger.
D'abord, je suis pas revenu refaire le match. Hein.
Vous étiez dans la rue. Vous étiez plus dans la rue que dans le compromis.
On est à la recherche du compromis. Vous pouvez aller rechercher les déclarations des 6 premiers mois de l'année 2023. Vous verrez des propositions de pause, les propositions de médiation, etc. qui ont été faites. Vous savez, dans tout, il faut être deux pour discuter. Voilà. Dans tout, il faut être deux pour discuter. Le compromis, ça nécessite, dès le départ, d'avoir des positions qui soient divergentes et d'avoir une volonté des deux partenaires, quels qu'ils soient, ou des deux interlocuteurs, quels qu'ils soient, de trouver une voie de passage commune.
Vous avez fait votre deuil de la réforme des retraites, de ce combat perdu il y a un an.
J'ai jamais considéré que c'était un combat personnel. C'était un combat collectif. Et il n'est pas question de faire de deuil. C'est ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une organisation syndicale qui est en très bonne main avec Marie-Lise Léon et qui continue sa route. Je pense qu'à chaque fois, et on le voit aujourd'hui, y compris dans le dialogue social au sein des entreprises, il se trouve qu'en replongeant dans une entreprise en particulier, je vois bien comment les choses. Et à chaque fois qu'on arrive à se parler et à donner de la place aux représentants des salariés, vous savez, dans un groupe mutualiste, Daniel Ball, qui est le nouveau président du groupe de Crédit Mutuel, il a été élu par le Parlement mutualiste qui est composé des sociétaires à 80% et à 20% des représentants des salariés.
C'est une mini-France idéalisée, c'est l'entreprise, c'est une micro-société idéalisée.
En tout cas, l'entreprise au sens général du terme, c'est un endroit où on arrive encore à construire du commun. Ça, c'est vrai. Je l'ai toujours pensé et je le pense encore. Le Crédit Mutuel, je vous le dis, c'est une entreprise qui porte des valeurs, qui porte une ambition et qui essaye de donner les moyens de le faire. Et je pense que quand on arrivera à être davantage dans le concret, vous savez, l'enjeu aujourd'hui des transformations à opérer, c'est l'enjeu de donner les moyens à tout le monde, là où ils sont, de faire les choses.
Mais sortons de l'entreprise, sortons du Crédit Mutuel, si vous voulez bien. Vous faites l'éloge du compromis. Comment vous, l'ancien leader syndical, c'était quand même votre carrière jusqu'à maintenant, vous jugez l'échec des négociations entre l'État et les partenaires sociaux pour réformer l'assurance chômage? Échec qui oblige l'État à reprendre lui-même la main. Est-ce que c'est la fin du paritarisme?
Je le dis encore une fois, à chaque fois que on privilégie le passage unilatéral au passage par le dialogue, on fait une erreur. On fait pas qu'une erreur sur le fond des sujets, on fait une erreur démocratique. Je l'ai toujours pensé, je le pense toujours. Je pense que il n'y a pas, et je reviendrai pas sur le sujet de l'assurance chômage, parce que il y a des gens mieux placés que moi pour en parler aujourd'hui. C'est pas ma fonction aujourd'hui.
Vous avez quand même un jugement sur ce que fait Gabriel Attal, quand même.
Mon avis, je vais vous dire, c'est clair, c'est que il faut toujours privilégier le dialogue, et c'est pas ce qui est fait malheureusement aujourd'hui. Mais c'est pas mon problème aujourd'hui de m'impliquer là-dedans. Moi, je veux pas être le commentateur de l'actualité sociale. Je l'ai fait, j'en étais un acteur. Aujourd'hui, je vais être un acteur de la transformation environnementale par le biais du monde bancaire. C'est ça mon ambition.
Oui, mais vous comprenez que votre regard puisse être attendu.
Pourquoi pendant quelques mois je n'ai pas parlé? Parce que je pense qu'il faut laisser la place. Et aujourd'hui, si je suis là ce matin, c'est parce que je veux parler de l'importance de l'investissement et du monde de bancaire pour faire la transition environnementale. Et c'est fondamental. Pourquoi? Parce que dans un moment où on se dit finalement l'environnement c'est peut-être un sujet de seconde zone et il y a mieux à faire sur la question sociale, sur la question économique, sur la question démocratique, politique, eh bien de faire la démonstration que par des actes concrets, on peut financer de la solidarité, on peut financer de l'environnement. Et tout ça, ça doit se faire. Je boucle là-dessus, ça doit se faire en mettant en responsabilité les différents acteurs. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est le sentiment que l'environnement c'est quelque chose qui concerne d'autres et on ne sait pas qui.
Et donc, vous ne voulez pas, en tant que CDTiste, citoyen, ancien patron de la CFDT, nous dire quel est votre avis sur la réforme possible de l'assurance chômage, avec une baisse éventuelle de la durée d'indemnisation, du montant de l'indemnisation, des conditions d'affiliation. Ces questions-là ne vous concernent plus, si, Laurent Berger.
Comme citoyen, ça me concerne, vous imaginez.
Alors,
bien.
Je vous la pose.
Et ça concerne dans une société où il y a de la paupérisation. Vous savez, la Fondation Crédit Mutuel, qui est la plus grande fondation d'entreprise privée aujourd'hui, hein, 80 millions de mécénats, elle finance des projets autour de la lutte contre la pauvreté. Elle est venue au secours des banques alimentaires et des Restos du Cœur récemment. Elle finance un projet avec la Croix-Rouge, je le dis, qui sont sur les territoires...
Mais vous, on parle de vous, pas du Crédit Mutuel, Laurent
Oui,
Berger,
non, mais alors... moi, je vous parle de mon engagement aujourd'hui, de mon engagement professionnel. Je suis bénévole à la Fondation Abbé Pierre parce que je suis soucieux du mal-logement. Et donc, moi, je pense qu'il faut éviter de polariser... La situation sur les demandeurs d'emploi en faisant croire que là, il y aurait des gens qui seraient profiteurs alors que c'est des gens qui sont paupérisés la plupart du temps.
Laurent Berger.
Donc, voilà, mais une fois que j'ai dit ça, il y a une secrétaire générale.
On a compris.
De la CFDT,
on la reçoit le 1er mai.
S'il y a un lieu où se pratique le compromis à grande échelle, vous le savez, c'est le Parlement européen. Nous sommes à moins de 50 jours de l'élection. Le RN est donné en tête des intentions de vote à 30% ou plus. Comment expliquez-vous cette dynamique que des cadres désormais se disent prêts à voter RN, que des bacs plus deux disent la même chose, et même les retraités qui n'ont jamais été jusque-là dans la sociologie électorale du RN.
Je suis dans une situation où il faut qu'on regarde qu'est-ce qui génère cette situation. Ce qui génère cette situation, c'est le sentiment d'invisibilité, du non-traitement des difficultés sociales, notamment, du sentiment que c'est le monde du clash et le monde de la caricature qui l'emparque avant d'être sur le fond des sujets. Et le fond des sujets, c'est la transition environnementale qu'il faut mener, les questions des inégalités qu'il faut bien traiter, la question démocratique, le sentiment que tout se réglerait en haut, et pas par les citoyens eux-mêmes à qui on confierait de la responsabilité, notamment la société civile. Le sentiment qu'il faudrait mettre les différentes institutions dans des cases. Vous voyez, c'est bizarre qu'un syndicaliste aille travailler dans une banque. Il y a quand même 9 Français sur 10 qui disent aujourd'hui, sur une enquête, qu'ils ont confiance dans leur banque, hein, quelle qu'elle soit. Vous voyez, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut de la projection sur ce qu'on veut faire, là où on est, chacun, de la responsabilité. Et c'est comme ça qu'on luttera contre les tentatives de rejet.
Mais dans votre livre, Laurent Berger, il y a de très nombreuses pages sur l'entreprise comme collectif, comme lieu de vie. La poussée du vote RN chez les cadres inspire quels commentaires chez vous ?
Eh ben que quand on n'arrive pas à apporter des réponses concrètes, les gens ils se réfugient dans des extrêmes et je le regrette. Enfin, je veux dire, vous connaissez mon engagement de longue date sur le sujet. C'est pas de là où je parle aujourd'hui. C'est pas aussi important que de là où je parlais parce que c'est pas ce qu'on attend de moi aujourd'hui. Mais je pense que c'est à chaque fois qu'on donnera le sentiment qu'on sera dans l'écume des choses pour régler les problèmes et notamment des problèmes de société, les problèmes de vivre ensemble, etc. On fera des électeurs potentiels pour des partis qui prônent plutôt le rejet de l'autre.
Mais quand vous voyez ce niveau du RN, est-ce que vous ne dites pas qu'un jour, il faudra peut-être y aller, quitter sa banque, plus tard, pour y aller, pour rentrer dans l'arène de la politique
Cette question, on me l'a posée 1000 fois.
Et vous en avez marre
toujours... Ah oui, je crois que vous le sentez là. Mais non, mais c'est surtout que... Mon moteur le matin, quand je me lève, c'est est-ce que je vais être utile ? Et est-ce que je vais être utile à ce que je porte comme vision de la société ? Et aujourd'hui, je le suis pleinement au sein du groupe Crédit Mutuel. Je suis engagé là, dans une équipe qui est très forte, avec des dirigeants, Éric Petitgand, le directeur général, Daniel Ball, avec qui je suis en phase en termes de valeur, en termes de d'évolution du monde bancaire, qui prend sa part, juste sa part, hein, pas plus, hein, dans la transition écologique et sociétale.
C'est aujourd'hui la question d'IAL portée sur demain.
Mais aujourd'hui, ça fait quelques mois pour moi. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est un peu demain aussi pour moi. Et le reste, j'ai toujours répondu que je ne me voyais pas aller dans le monde politique. Bah, vous voyez, je suis dans le monde bancaire et je suis heureux d'y être.
Il y a la banque et puis il y a la gauche. La gauche éclatée façon puzzle avec la NUPES explosée depuis le 7 octobre. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, y songer ? Vous regardez ou pas l'état de la gauche ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Et je suis un citoyen Et aujourd'hui, je suis un professionnel engagé dans la création d'un institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité. Et j'ai les mains dans le cambouis pour essayer de faire en sorte qu'on soit un centre d'expertise, qu'on soit un centre d'accompagnement de nos clients sur...
Il n'y a pas des valeurs communes.
Ben, il y a des valeurs communes, bien sûr, mais j'ai pas changé. Je suis toujours le même homme. Mais j'ai décidé justement de poursuivre mon engagement, qui a été toujours sincère, dans le monde économique et dans le monde bancaire, et au Crédit Mutuel, avec qui je partage de larges valeurs. Les valeurs mutualistes, et le mutualisme et le syndicalisme, ça a des valeurs extrêmement proches. Hein. C'est ensemble, on essaye de se protéger les uns les autres et de construire des projets collectifs. C'est ça qui me mobilise aujourd'hui. Je vois bien la question qui est quand même derrière ce que vous me demandez.
Est-ce que vous voterez le 9 juin prochain ?
Mais comme tout citoyen, j'espère qu'il votera le 9 juin prochain. Je sais pour qui et ça me regarde.
Que pensez-vous de la dynamique ou pas, sondagière en tout cas, de Raphaël Glucksmann ?
Je sais ce que je ferai le 9 juin et ça me regarde.
D'accord. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne demain matin, discours sur l'Europe, Sorbonne 2, 7 ans quasiment après Sorbonne 1 ?
Non, je suis pas sans mobiliser sur cette question-là. Moi, je suis un Européen convaincu. Vous savez, j'ai rejoint une entreprise qui a bien des égards a pris son fonctionnement dans le modèle allemand. Dans le Moulin Rhénan, c'est aussi ce qui m'a séduit. On m'a souvent dit de moi que j'étais un syndicaliste plus allemand que français, d'une certaine manière. Et c'est vrai que je m'y retrouve aujourd'hui dans le groupe Crédit Mutuel. C'est aussi pour ces raisons-là, sans doute. On a besoin d'Europe, une Europe qui soit moins naïve, qui protège. On a besoin aussi d'une Europe qui oriente sur la transition environnementale. On est très mobilisé aujourd'hui sur du reporting. Alors ça fait un peu techno, mais c'est très concret. L'Europe a décidé que, à travers la CSRD,
expliquez-nous, parce que là, c'est
du reporting qui demande aux entreprises de dire quelle est leur action sur leur implication dans le domaine environnemental et social, notamment. C'est ce que j'appelle c'est des fois un peu fouillu, c'est très, très compliqué, mais c'est un mal nécessaire d'une certaine manière parce que ça va obliger aussi le monde économique à bouger, les entreprises à bouger. Ce qu'il faut, c'est mieux accompagner les entreprises dans cela. Donc, on a besoin d'une Europe qui régule et en même temps, qui continue d'investir dans la transition environnementale. Enfin, c'est une évidence.
À vous entendre, on a le sentiment que c'est par l'entreprise que la transition se fera et que vous en attendez peu ou moins des politiques. Je me trompe, Laurent Berger ?
Non, je crois qu'il faut il faut tout. Il faut des orientations politiques qui permettent dans une société de savoir vers où on va. Et après, il faut des acteurs qui sont engagés pour le faire. Et je pense que l'entreprise aujourd'hui est un acteur essentiel pour changer la société, notamment sur la question environnementale, la question des solidarités. Vous savez, je vous ai pas beaucoup parlé du dividende sociétal, mais attribuer 15% de son bénéfice à des projets environnementaux et sociétaux, c'est énorme. Pour le Crédit Mutuel, ce sera... à la fin de l'année 2024, 1 milliard qui sera consacré à cette ambition-là.
Vous y revenez dans le livre, vous aviez parlé de crise démocratique en pleine contestation de la réforme des retraites pour qualifier l'état du pays. L'expression avait fait énormément de bruit. C'est notre dernière question. La crise démocratique, nous y sommes et nous y restons, selon vous, Laurent Berger ?
Oui, d'ailleurs, quand je l'avais abordé, ça avait été contesté comme terme, et aujourd'hui, il est largement utilisé. On y est, et il faut regarder ce qui recrée du commun, ce qui donne... Moi, ce qui me frappe, c'est aujourd'hui, au Crédit Mutuel, il y a 20 000 élus de terrain qui représentent les sociétaires. Et on pourrait prendre la même chose dans le mouvement associatif. Il y a des gens qui sont prêts à faire et à participer à des projets collectifs. Et on a le sentiment qu'il y a une espèce de barrière entre une conduite d'un pays de façon extrêmement verticale et une incapacité à s'appuyer sur les forces vives. Et les forces vives dans un pays, c'est la société civile, c'est le monde associatif, c'est le monde économique, c'est le monde social.
C'est assez triste ce que vous dites finalement, c'est-à-dire que c'est plus dans le champ politique qu'on peut avancer, c'est dans
si,
un autre...
je dis pas qu'on peut pas avancer dans le champ politique, mais le champ politique peut pas avancer tout seul, il faut qu'il avance avec le monde économique, avec le monde social, avec la société civile.
Pour une société du compromis aux éditions de l'Aube avec Jean Viard. Merci Laurent Berger d'avoir été à notre micro ce matin.